Europe Midi, Christophe Lamar.
Bonjour, il est 12h30 sur Europe 1. Portugal-France ce soir, match décisif pour la première place. La revanche de la finale de l'Euro 2016 qui avait sacré les Portugais. Et même si les Bleus sont déjà qualifiés, cette rencontre est tout sauf secondaire. Un parfum de finale bis que la communauté portugaise de France prépare activement. Tout dépendra en partie de lui. À 36 ans, Cristiano Ronaldo peut-il faire la différence? Le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro n'a jamais marqué contre les Bleus. Les élections régionales, circuler, il n'y a rien à voir ni à dire. La majorité sonnée par les résultats de dimanche dernier fait comme si de rien n'était. C'est un monument et un temple de la consommation. La Samaritaine rouvre ses portes après 16 ans de fermeture. Dans Europe Midi également, le procès de Willy Bardon, accusé du meurtre d'Élodie Kulik. Moment éprouvant à l'audience, la cour a entendu les appels au secours que la victime a passés sur son téléphone. Les petits achats que l'on a l'habitude d'effectuer sur Internet seront 20% plus chers à compter du 1er juillet. L'été est là, même si la météo semble nous prouver le contraire. Certains rêvent déjà de baignade en mer ou dans une piscine. Les CRS font la tournée des écoles pour sensibiliser les jeunes au risque de la noyade. Et puis, invité d'Europe Midi, Alain Giresse, bien sûr, l'ancien partenaire de Michel Platini en équipe de France, nous livrera son analyse avant Portugal-France ce soir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce n'est pas une finale, mais ça y ressemblerait presque. L'enjeu, c'est bien sûr de finir à la première place et de s'assurer un huitième de finale plus confortable face à un adversaire a priori plus faible. France-Portugal, ça promet beaucoup. Les Français y croient, mais les Portugais aussi, notamment à Paris où cette communauté est très présente. On se prépare activement dans ce restaurant du 15e arrondissement. Le patron et ses clients sont déjà prêts.
J'ai 19 ans de Portugal et 52 ans de France. Donc mon cœur balance.
Tous les jeunes portugais, ils viennent habillés avec le maillot et les drapeaux.
Et vous, votre maillot, il est prêt ?
Ah, ça y est, c'est prêt. Il est propre, évidemment, il sera en plein match.
On a fait la fête, on a mis la musique à fond, on s'est éclaté. On était fiers. Le Portugal peut encore une fois gagner. Je croise les doigts, je l'espère, je garde en tête qu'il va gagner.
Voilà, propos recueillis par Océane Théard. Des stars, il y en aura des deux côtés du terrain. Côté français, bien sûr, on va guetter le comportement du trio magique, Mbappé, Griezmann, Benzema. Et en face, il y aura bien sûr l'idole, l'étoile, Cristiano Ronaldo. À 36 ans, il continue de briller quand d'autres aimeraient bien le voir décliner. Le joueur ne laisse personne indifférent, y compris chez les Bleus. Jean-François Pérez, vous êtes notre envoyé spécial à Budapest.
Et oui, comment imaginer une grande compétition sans lui? Le quintuple ballon d'or, trait d'union entre les générations, double champion d'Europe. Les années passent, mais CR7, comme on le surnomme, reste l'une des grandes attractions de cet Euro. Interrogez les Bleus d'ailleurs et vous tomberez sur l'école des fans, à commencer par Antoine Griezmann.
C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire à 36 ans. Cristiano, c'est toujours aussi dominant, un buteur, un exemple pour beaucoup de jeunes joueurs qui sont en centre de formation.
Kylian Mbappé avait collé son poster au mur de sa chambre d'enfant. Cristiano Ronaldo est une légende, mais il reste d'une efficacité redoutable. 3 buts déjà en seulement 2 matchs et des qualités qui rendent fous ses adversaires depuis bientôt 20 ans. Alors comment l'empêcher de jouer? Eh bien la question fait sourire le latéral français, Lucas Digne.
Quand on est défenseur, c'est l'affaire de tous, on va dire, des 4 de derrière, parce qu'il bouge énormément sur la ligne d'attaque et c'est de toujours garder un œil sur lui et de toujours bien communiquer, faire attention à pas trop laisser d'espace.
Cristiano Ronaldo a déjà battu un record, celui du nombre de buts marqués par un joueur à l'Euro, et il pourrait bientôt détenir seul celui du nombre de buts inscrits en sélection. Avec 107 buts, il n'est plus qu'à 2 longueurs du record absolu de l'Iranien Ali Day. Impossible n'est pas Ronaldo.
Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest. Portugal-France ce soir à 21h, soirée spéciale bien sûr sur Europe 1 dès 20h et jusqu'à 23h30 autour de Lionel Rousseau et ses invités. Les élections régionales, Gérald Darmanin reconnaît des ratés dans l'organisation et la préparation du premier tour. Le ministre de l'Intérieur entendu ce matin devant la commission des lois du Sénat. Cette série de Quoic est-elle responsable d'une partie de l'abstention? Une partie de la classe politique est tentée de se réfugier derrière cette hypothèse pour expliquer ses mauvais résultats. Il y en a bien d'autres, évidemment, au sein de La République En Marche. On encaisse la débâcle et on se cache. Jean Castex se fait très discret. Quant à Emmanuel Macron, Louis Dragnel, il fait comme si de rien n'était.
Oui, même pas mal. Emmanuel Macron n'a presque rien changé à son agenda en ce début de semaine. Et c'est bien ce qu'il y a de plus troublant, car le président a pour habitude de modifier l'organisation de ses journées un peu au dernier moment. Depuis 2 jours, comme prévu, il a donc reçu Justin Bieber à l'Élysée, participé à la réouverture de la Samaritaine rue de Rivoli à Paris. On l'a même vu tout sourire lors de la fête de la musique à l'Élysée lundi soir. En observant ces images, on pourrait presque penser qu'il n'y a pas eu d'élection ce week-end, qu'il n'y en a pas non plus dimanche prochain, et surtout que La République En Marche, son propre parti, ne vient pas d'essuyer une lourde défaite. En clair, Emmanuel Macron cherche à minimiser sa défaite. Il y a encore un deuxième tour dimanche prochain, rétorque un proche du chef de l'État, un conseiller qui appelle à attendre les résultats définitifs pour tirer les enseignements de l'élection. Mais cette stratégie met mal à l'aise ce ministre qui explique « C'est incompréhensible, on vient de se faire battre, il faut que le président s'exprime ». Ce ministre pourrait être exaucé puisque selon nos informations, Emmanuel Macron envisage clairement de s'exprimer dès le lendemain du second tour. Mais pas question pour le chef de l'État de passer trop de temps à reconnaître son échec. La semaine prochaine, il parlera surtout de relance économique et d'emploi. En clair, Emmanuel Macron a bien l'intention de tout faire pour passer à un autre sujet.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. Hemingway célébrait Paris, ses cafés, ses restaurants, mais aussi ses monuments. Et quoi qu'on en pense, la Samaritaine en est un. On ne sait pas encore si on y trouvera tout, comme à l'époque. Après 16 ans de fermeture, ce grand magasin emblématique vient de rouvrir ses portes au CNTA.
Oui, déjà devant le magasin qui donne sur le Pont Neuf, les curieux s'arrêtent et scrutent la façade, smartphone à la main. C'est le cas de Marie-Laure.
Oui, j'étais en train de prendre une très belle photo des initiales des fondateurs de la Samaritaine, les cognacs jets. Oui, ça fait 15 ans que je ne suis pas venue à la Samaritaine. Je trouve ça magnifique et puis il y a une part de Paris qui se réveille et j'ai trouvé ça très beau. Ça représente vraiment la vie parisienne, je trouve.
Cet âme du Paris du 19e se retrouve à l'intérieur de la Samaritaine une fois les doubles portes franchies. Là, les regards sont tout de suite happés par le monumental escalier central. 270 marches, une rampe tout en arabesque dans le style Art Nouveau et le S de la Samaritaine recouvert de feuilles d'or. Ces traces de l'ancien magasin, cela rappelle des souvenirs à Cathy qui déambule entre les sacs à main et les parfums.
Ma maman travaillait à la Samaritaine, pas dans ce bâtiment, dans le bâtiment à côté. C'est magnifique. Vraiment, j'avais l'impression que c'était complètement caché à l'époque et que d'un seul coup, je redécouvre un bâtiment avec une architecture très moderne. Quand on est là, on se sent quelqu'un d'autre.
Et pour se sentir quelqu'un d'autre, il faudra quand même de l'endurance. Cette Samaritaine remise à neuf s'étale sur plus de 20 000 mètres carrés et 5 étages.
Océane Théard.
Europe Midi, Christophe Lamarre.
Restez avec nous dans un instant, le procès de Willy Bardon devant la cour d'assises d'appel du Pas-de-Calais. Les jurés ont à nouveau entendu l'appel au secours passé par Élodie Kulik le soir de son agression.
Europe Midi, Christophe Lamarre.
L'appel au secours dure 26 secondes, un enregistrement terrible diffusé devant les jurés de la cour d'assises du Nord ce matin. Cet appel, c'est celui d'Élodie Kulik qui fait face à ses agresseurs. Deux voix d'hommes y sont audibles. Et la question est toujours de savoir si l'une d'elles appartient à Willy Bardon qui est dans le box des accusés. Lionel Gougelot, c'est l'un des moments clés de ce procès.
Oui, effectivement, et le premier expert de la police scientifique qui a déposé ce matin a décortiqué avec une collègue cette bande-son. Un expert qui a bien identifié deux voix masculines en arrière-plan des hurlements d'Élodie Kulik au moment de son agression. Mais ses conclusions résonnent comme une mise en garde à l'égard de la cour, un appel à la prudence. L'échantillon est de trop mauvaise qualité et les bribes de paroles trop courtes pour en tirer des certitudes. Prudence également sur les comparaisons de voix entre celles de Willy Bardon et celles figurant sur la bande-son. Bref, une marge de doute qui doit bénéficier à l'accusé, selon Stéphane Dacot, l'un de ses avocats.
Concrètement, il y en a une bande qui dure 26 secondes, sur laquelle on identifie des individus sur 0,7 secondes et 2 secondes, sur un enregistrement de très mauvaise qualité, qui en plus est biaisé par tout ce qu'on entend autour, c'est-à-dire la détresse de cette jeune femme qui n'est pas contestable. Et l'expert nous dit, on ne peut pas identifier quelqu'un. Vous n'avez aucun élément qui mette en cause, qui incrimine Willy Bardon sur la scène de crime.
Sauf que des proches de Willy Bardon ont durant l'enquête formellement identifié sa voix sur l'enregistrement. Ils seront dans les prochaines heures entendus par la cour, mais même pour un familier, précise l'expert, plus le document sonore est court et de mauvaise qualité, plus on a de chances de se tromper.
Lionel Gougelot en direct de la cour d'assises d'appel du Nord. La crise sanitaire a favorisé l'essor ou renforcé les positions des géants de l'e-commerce. On pouvait pratiquement tout commander en un clic. Et ce que l'on sait moins, c'est que ces produits n'étaient pas soumis à la TVA sur le continent. On parle bien sûr des plateformes étrangères comme Alibaba, Wish et Amazon. L'Union européenne dit stop. À partir du 1er juillet, tous les produits de moins de 22 euros seront taxés à 20% comme pour les entreprises européennes. Et ce ne sera pas sans conséquence, estime Lionel Maugin. Il est journaliste au magazine 60 millions de consommateurs.
La concurrence concurrence était déloyale avec les produits d'importation hors Union européenne. Et puis évidemment, ça faisait un manque à gagner fiscal pour les caisses des États européens. Donc l'Union européenne a estimé qu'il fallait absolument rétablir une équité. Donc ce qui va se passer à partir du 1er juillet, c'est que les produits d'importation chinoise essentiellement, qu'on trouve sur les marketplaces de Cdiscount, d'Amazon et d'Alibaba, seront soumis à cette TVA de 20%, ce qui risque de faire augmenter évidemment les prix et de faire des embouteillages aux douanes. Il faut prévoir des retards à la livraison à partir du début juillet et puis des produits en hausse hein, de 20 à 30%.
Un propos recueilli par Luz Escoubès. Pour les crèmes à bronzer, les maillots de bain, on peut aussi se rendre en magasin. Comme chaque année, l'appel du grand large devrait en séduire plus d'un. La mer plutôt que la montagne, encore que. On peut aussi se baigner dans les lacs, des rivières ou encore dans une piscine, même à 1000 mètres d'altitude. Qui dit baignade, dit risque de noyade ou d'accident. Et les CRS se lancent dans une campagne de prévention avec une cible particulière, les jeunes. Stéphane Place.
Quelle est la pire des conséquences sur un accident lié à une vague de bord ?
Tenue de sport bleu-blanc-rouge et un grade et un écusson qui ne laissent aucun doute, ce sont bien deux CRS de la police nationale mobilisés dans les postes de secours l'été qui s'adressent à cette classe de 3e. Vidéo à l'appui, le brigadier chef Guillaume Christ et son collègue insistent auprès de ces adolescents sur les dangers de l'océan.
Quand on leur dit « attention, la vague de bord, vous pouvez finir dans une chaise roulante », ils n'ont pas forcément compris que ça pouvait leur arriver. C'est comme ce courant de baïne. Oui, oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais nager. Quand on leur dit « mais ne reviens viens surtout pas là où tu es rentré. Prends cette vague qui est à côté de toi à 20 mètres et tu vas rentrer aisément. » Et ils disent « Oui, c'est vrai. »
Message reçu 5 sur 5 par ces jeunes d'une quinzaine d'années.
Même si on est d'ici, il y a forcément des choses qu'on connaît pas. Eux, ils connaissent, ils ont l'expérience.
Quand c'est nos parents, on n'écoute pas trop, alors que quand c'est des policiers, on a plus envie d'écouter.
Françoise Amétépé est la principale du collège d'Andernos-les-Bains.
Nous, on pense que c'est complémentaire justement des propos tenus par les parents, tenus par nos enseignants d'éducation physique et sportive. C'est important que quelqu'un d'autre vienne aussi l'évoquer et en plus des gens du terrain.
Mission de sensibilisation des CRS dans 40 collèges de la région, dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. Andernos-les-Bains, Stéphane Place, Europe 1.
Et ça nous amène au temps. Anissa Haddadi, un département est toujours placé en vigilance orange.
Oui, il s'agit du département de l'Eure, Christophe, qui reste en vigilance orange, crue et inondation. Soyez très prudents. Alors le temps sera sec cet après-midi dans ce département. Sur une grande partie de la moitié sud, des Pyrénées jusqu'au Grand Est en passant par l'Auvergne et les Alpes, nous avons un temps qui reste encore très instable cet après-midi avec pas mal d'averses et de nombreux orages. Dans le centre-est, entre le Massif central et les Alpes, en fait sur la partie nord de la vallée du Rhône, là on attend des orages particulièrement violents cet après-midi. On va garder un œil sur cette partie de la France. Au nord de la Bretagne et jusqu'aux Ardennes en passant par la région parisienne, et bien là, quelques éclaircies se montrent cet après-midi, ça fait du bien, on en a besoin, le temps est sec au bord de la Méditerranée et en Corse, quelques cumulus se développent. Les températures, elles sont toujours fraîches à l'ouest, avec 15 degrés à Saint-Brieuc, 17 à Tarbes, 19 degrés à Nantes et à Pau, 20 degrés à Paris, 21 à Clermont-Ferrand, 24 à Belfort, dans le sud c'est la chaleur, 27 degrés à Nice, 29 à Nîmes et 30 pour Bastia ou encore Marseille.
Merci Anissa Haddadi.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Christophe Lamar.
Bonjour Alain Giresse.
Bonjour.
Bon, vous faites partie de ceux que l'on n'a plus besoin de présenter, mais enfin quand même, pour les plus jeunes, Alain Giresse, évidemment membre titulaire du Carré Magique de l'Euro 84. On rappelle que vous êtes champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984. Vous terminez 3e à la Coupe du Monde 86. Vous publiez d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler ces jours-ci, Né pour jouer, à une biographie qui retrace votre parcours exceptionnel en club. Évidemment aussi au sein de l'équipe de France. Mais on va d'abord, si vous le voulez bien, parler avec vous de ce match face au Portugal ce soir.
Et oui,
d'habitude, Alain, lorsqu'on est favori, cette ultime rencontre de groupe ne représente pas beaucoup d'enjeux puisque vous êtes déjà qualifié, les sélectionneurs font tourner pour reposer leur effectif. Ça ne sera pas forcément le cas ce soir puisque c'est la première place qui se joue. Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses d'après vous ?
Mais écoutez, d'abord, on le sait, on va pas revenir sur le groupe que l'on avait, mais effectivement, avoir la première place, c'est quand même, par rapport après aux projections que l'on peut avoir, c'est quand même une bonne chose. Bon, d'abord pour les adversaires futurs à rencontrer, et également aussi sur le plan de la confiance, sur le plan aussi de à nouveau renouveler un petit peu l'étiquette de favori que l'on a, que l'on nous a donné à juste titre puisqu'on est champion du monde, et le réaffirmer en finissant premier de ce groupe. Voilà, ce qui fait que psychologiquement vis-à-vis des adversaires, on sera en position de force. C'est toujours un élément non négligeable pour la poursuite de la compétition.
Vous pensez que battre le Portugal ce soir, ce serait envoyer un signal à tous les adversaires potentiels à partir de la phase d'élimination directe?
Non, mais c'est évident, oui. C'est évident parce que, En l'occurrence, la France, c'est pas une équipe qui allait surprendre. On avait cette étiquette-là, donc il faut l'affirmer. Et l'affirmer, c'est par une victoire. On va pas, même si on est qualifié, comme vous l'avez dit, c'est tout d'un coup, on nous ferait redescendre de notre pédestal, ce qui donnerait un petit peu un espoir à nos adversaires. Là, c'est pour bien montrer que nous affronter, ça sera vraiment très très compliqué.
Alors, c'est un match particulier parce qu'évidemment, c'est le Portugal en face, pardon. Vu d'ici, Alain Giresse, on voit ce match comme une revanche de la finale de l'Euro 2016. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut évacuer pour les joueurs? Et là, je m'adresse à la fois aux joueurs et aux sélectionneurs que vous êtes. Ou au contraire, est-ce que cela peut offrir un surcroît de motivation?
Non, je pense que ça ne sera pas le levier principal pour l'équipe de France. On ne peut pas éliminer cette finale perdue comme ça en disant aujourd'hui on va non, c'est autre chose, c'est affirmer. En plus, on a un champion d'Europe face à un champion du monde. Il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte, qui sont sur la suprématie que peut représenter une équipe. Donc la finale, je pense que c'est pas ça que Didier Deschamps va se servir aujourd'hui pour essayer de galvaniser ses joueurs.
On a beaucoup parlé, bien sûr, du trio d'attaque fantastique, Mbappé, Griezmann, Benzema. Il est pratiquement muet depuis le début de l'Euro, si on accepte, bien sûr, l'égalisation de Griezmann face à la Hongrie. Et en face, est-ce qu'on a tort, en fait, de se focaliser sur l'inefficacité de ce trio? Est-ce qu'on en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser tranquilles?
Le problème, c'est qu'on est parti très haut, quoi. On a positionné ce trio à juste titre par rapport à leur qualité et ce qu'ils pouvaient représenter comme atout pour l'équipe de France. Donc, c'est sûr qu'il y a un plus. Il y a un plus offensif dans la créativité, dans les possibilités offensives pour l'équipe de France. Mais voilà, ça ne s'est pas traduit concrètement par des chiffres. C'était à la fin du bal qu'on fait l'orchestre. Donc, il y a ces trois joueurs en ont encore sous les pédales, si on peut dire. Donc, je pense que, de toute façon, on a des atouts. Ça représente quand même des atouts certains, dans le potentiel offensif de l'équipe de France.
En face, il y a Cristiano Ronaldo, qui, lui, a déjà marqué 3 fois, mais jamais contre l'équipe de France. 3 fois dans cet Euro, bien sûr. 6 confrontations, pas le moindre but. Alain Giresse, ça ne peut pas être du hasard. Est-ce qu'on a du mal à imaginer que Ronaldo puisse, par exemple, faire un complexe face aux Bleus? Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un plan anti-Ronaldo. Non, là, et là, je parle aux joueurs et aussi aux sélectionneurs que vous avez été. Ça va être encore le cas ce soir. Non, mais ça ne peut pas être un hasard, Alain Giresse.
Non, mais fatalement, attendez, même si Cristiano Ronaldo a pris de l'âge, vous ne regardez pas ce joueur de la même façon qu'un autre joueur. C'est une évidence. Vous avez quand même un œil particulier, bien sûr, parce que vous savez qu'à tout moment, il est capable de marquer un but improbable, d'avoir un geste qu'on n'attendait pas. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a une attention, bien sûr. Et ce soir, tous les joueurs français, notamment les défenseurs, ils surveilleront avec quelque chose de différent, avec une attitude différente que les autres joueurs. C'est le privilège qu'ont les très grands joueurs, voilà, que l'on attend et que l'on surveille d'une façon très, très précise.
Non pas un plan anti-Ronaldo, mais simplement une plus grande attention, en fait. C'est ça que vous voulez dire?
Mais oui, bien sûr, parce que quand même, c'est des joueurs comme lui, comme Messi, qui représentent quelque chose. Ils sont au sommet, et ces joueurs-là, en plus, ce sont des compétiteurs. Cristiano Ronaldo, mentalement, c'est quelqu'un de très, très, très fort. Donc, vous pouvez ne pas le voir pendant une heure et quart pendant le match et le sortir, comme ça a été le cas contre la Hongrie dans les dernières minutes et le marquer de but. Voilà, c'est ce qui fait aussi qu'il a duré dans sa carrière et qu'il a été si haut en termes de dimension de footballeur.
Et on se souvient notamment aussi de la finale de l'Euro 2016 où il sort sur blessure et il reste, plutôt que de rentrer au vestiaire, il reste sur la pelouse, en tout cas à côté du sélectionneur pour justement soutenir ses joueurs. Ça a eu un rôle capital et on se rend compte d'ailleurs du rôle effectivement, au-delà de l'aspect technique mais de l'aspect psychologique, du personnage. Sur le Portugal, de ce que vous avez pu en voir, Alain Giresse, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Est-ce qu'elle est aussi forte qu'en 2016 ou est-ce qu'elle vous paraît quand même un ton en dessous?
Alors, c'est mitigé parce qu'elle a très bien démarré, elle a très bien démarré cet Euro, puis alors par contre, elle a sombré contre l'Allemagne. Ah oui, effectivement, avec beaucoup de lacunes défensives, les Allemands ont marqué 4 buts, ça aurait pu être pire, et c'est là que je trouve que ça donne des possibilités. Ils ont, offensivement, ils sont bien, ils ont un niveau offensif qui est assez important, mais défensivement, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je ne les sens pas aussi forts, aussi hermétiques qu'ils avaient été en 2016, où ils étaient, évidemment, c'était un bloc difficile à contourner. Là, je trouve qu'il y a, défensivement, il y a quand même des grosses lacunes.
Ouais. On va parler un petit peu de vous, Alain Giresse, parce que vous publiez, je l'ai dit en préambule, une biographie cette semaine qui est sortie le 10 juin, je crois, le 11 juin, Né pour jouer, où vous retracez votre parcours professionnel. Et je me suis non pas laissé dire, mais parce que je l'ai lu, c'est que vous avez failli prendre la tête de l'équipe de France en 98, c'est ça, racontez-nous.
Oui, entre autres, on m'a proposé de raconter mon histoire, donc j'ai dit, attendez, puis j'ai dit ma foi, quand j'ai fait le déroulé de ma carrière, j'ai dit, tiens, effectivement, c'est intéressant de raconter un petit peu et puis rentrer un peu à l'intérieur de ce que peut être une carrière comme la mienne. Oui, et donc il y a des passages, il y a des moments, oui, effectivement. 1er mai 98, Noël Lehret me demande de prendre, à partir du moment où Aimé Jacquet a arrêté, quel que soit le résultat de la Coupe du Monde, de prendre en main l'équipe de France. Voilà, j'avais plus qu'à donner ma réponse et j'ai trouvé que le moment était peut-être un petit peu prématuré pour moi. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a été présenté, mais qu'à ce moment-là, je n'ai pas accepté.
C'était trop gros tout de suite pour vous ?
Oui, je pense, oui. Ça faisait 3-4 ans que j'étais dans le circuit d'entraîneur de club. Donc, je disais, il fallait que je mûrisse un peu plus pour, évidemment, rentrer dans le... Même si je connaissais ce que ça pouvait être le contexte d'une équipe de France. Voilà, mais c'était une sélectionneur, puisque je l'ai été, je le suis, c'est totalement différent, c'est un autre métier. J'étais très, très honoré évidemment que l'on pense à moi, que Noël Lehret pense à moi, mais je pense que voilà, c'est après quand on a fait un choix, on le valide et puis on fait avec.
On va justement parler de votre parcours de sélectionneur, il y a aussi votre parcours d'entraîneur, vous êtes passé par Toulouse et une expérience très courte au Paris Saint-Germain.
Oh là oui, très courte, des conditions très difficiles effectivement.
Vous confirmez que ce n'est pas un club comme un autre, Alain Giresse?
Paris ne peut pas être un club comme un autre. C'est la capitale, c'est un club qui est sous les feux des projecteurs en permanence, c'est tout un contexte. Non, évidemment qu'il y a une terrible attente, il y a des pressions, et c'est là que c'est un club comme ça doit être bien, bien structuré, bien en place. Et les joueurs qui également viennent jouer à Paris doivent se rendre compte de savoir un petit peu ce qu'ils sont capables. Ce qu'ils doivent amener pour être capables de pouvoir répondre à cette attente. Voilà, c'est à Marseille aussi, c'est aussi un autre contexte différent où il faut aussi être, que ce soit quand on est joueur ou que le club soit structuré pour faire face à toutes ces demandes. Voilà, donc et ça s'est pas très bien passé avec le club, mais toute cette saison-là s'est pas bien passé puisqu'au cours de cette saison, il y a eu 3 entraîneurs, 2 présidents, enfin bon voilà, il y a eu une multitude d'événements qui n'étaient pas faits pour que le club soit dans la sérénité.
Ah oui, et puis, votre destin de sélectionneur vous a amené notamment en Afrique. Vous avez entraîné le Gabon, le Mali, le Sénégal. Une question par rapport au football africain. On dit souvent qu'un jour, il y aura un pays africain champion du monde. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pensez possible et qu'il se produira dans un avenir assez proche.
Et sur le plan, si on raisonne purement sur le potentiel des possibilités techniques des joueurs athlétiques, ça, il y a tout ça. Après, malheureusement, l'Afrique s'ouvre toujours quelquefois de problèmes d'organisation interne dans les fédérations où il y a du mal à mettre en place quelque chose de strict, de rigoureux, voilà, avec souvent des interventions pour modifier le fonctionnement des fédérations et en répercussion d'une équipe nationale. Voilà, c'est là. Le jour où tout d'un coup il y aura cette rigueur, ce professionnalisme à tous les niveaux, le potentiel africain, effectivement, sera à prendre en considération pour des possibilités au plus haut niveau mondial, ça c'est sûr.
Merci Alain Giresse pour votre témoignage. Je rappelle votre biographie, un Né pour jouer qui est sorti cette semaine. Et puis, je rappelle, bien sûr, champion d'Europe en 1984 avec l'équipe de France. C'est ce qu'on souhaite ce soir pour les Bleus, qu'ils continuent leur parcours et surtout qu'ils puissent battre le Portugal. Merci Alain Giresse.
Europe Midi, Christophe Lamarre.